Merci de m'accueillir malgré mes retards, tout à fait imprévus. Je signale aux gens présents que la meilleure place pour voir les projections, c'est plutôt ce côté-là, derrière moi, puisque le grand écran se trouve ici, là, devant moi. Voilà. Non, c'est ça. Le titre de la présentation a un petit peu changé par rapport à celui qui est indiqué en bas de l'escalier. Il est devenu donc beaucoup plus modeste que de faire intervenir l'art à travers les siècles. Mais modeste, je n'en suis pas sûr finalement. Le Sauveur et la Mère, iconographie de la Pietà du XIVe siècle jusqu'à nos jours. On parle peu de pitié, aujourd'hui moins encore de piété. La piété, c'est le devoir envers les dieux, c'est aussi le devoir envers les humains. On ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain, compatir, sympathiser. L'idée d'un mal en l'homme est devenue... Est-ce qu'on m'entend bien ou... Oui ? Bon. L'idée d'un mal en l'homme est devenue proprement incompréhensible et tout aussi scandaleuse, l'idée d'une piété envers ses contemporains comme envers Dieu. L'homme moderne, vivant sans faute, mourra immortel, nous serine à chaque instant la morale de nos jours. Nous mourrons, mais en nous croyant immortels. L'homme désormais se suffit à lui-même et même se suffit à soi seul. Cette monadologie radicale, excluant la piété, vue désormais comme une contagion périlleuse, devrait nous assurer et protéger de tout contact suspect une vieillesse éternelle. Pourtant, contrairement à Job, nous ne mourrons pas rassasiés de jours, mais au contraire insatisfaits. Alors cependant, nous le rappelle par ces images, la piété est constitutive de la morale judaïque et chrétienne sur laquelle l'Europe s'est fondée. La piété est l'un des thèmes les plus bouleversants que la spiritualité chrétienne ait imaginé. André Malraux, qui le reconnaissait, avouait ne pas comprendre la piétas, qui devinait combien pauvre est la fraternité qu'il lui compare. Le thème de la piéta est tardif, comme ici dans la celle de Cospetura de 1460 du musée Correr à Venise. C'est un thème qui se met en place à la fin du Moyen-Âge, dans la seconde moitié du XIVe siècle. Il s'épanouit au XVe siècle, il naît à l'automne du Moyen-Âge, donc, comme dira Huizinga, comme un adieu mélancolique, plénitude et désenchantement, agonie avant résurrection. La Pietà, cette figure d'une mère encore jeune, trentaine d'années, recevant sur son giron son fils encore chaud et pantelant après qu'il a été crucifié, cette image saisissante en convoque une autre. Les premières manifestations de joie qu'un enfant manifeste, quelques jours seulement après sa naissance, ses premiers signes d'amour, c'est le visage de sa mère qui les provoque quand il en reconnaît les traits se penchant vers lui. C'est du moins ce que disent les neurologues qui ont patiemment étudié la chose. François Cheng, dans ses méditations sur la beauté, écrit que probablement, je cite, dans l'art occidental, les tableaux représentant la Pietà comptent parmi ses plus grands chefs-d'œuvre. Pourquoi cette élection ? C'est que l'image du Christ, une fois déposé de la croix et allongé, tétanisé par la mort, sur le giron de sa mère, est née dans le cercle mystique rhénan, et particulièrement dans les couvents de femmes de la Rhénanie, à la fin du XIVe siècle. Et c'est l'une des images les plus troublantes qu'ait produite cet art de la visibilité, de l'imagination qu'a été l'art de l'Occident. C'est dans l'épaisseur du temps l'image de l'enfant nouveau-né que la mère tenait de la même façon, voyant déjà en lui le destin de la passion s'accomplir. Dressée, mélancolique et douloureuse, elle triomphe de la douleur et de la mort, mais c'est l'art qui la représente, qui a ce pouvoir de consoler dans la mesure où il peut rendre sensible ce sentiment de la piété, qui veut dire à la fois pitié et piété, douleur partagée et compassion, respect de l'autre jusqu'à sa mort. La magie sensuelle, visuelle, organique faisait de ces images des intercesseurs auprès des puissances supérieures pour nous assurer un réconfort et nous tirer par l'éclat de leur beauté hors des affres de la mort. J'ai dit à tous les êtres, dit saint Augustin, qui assaillent les portes de mes sens, entretenez-moi de mon Dieu puisque vous ne l'êtes point, dites-moi quelque chose de lui. Ils m'ont crié d'une voix éclatante, c'est lui qui nous a créés. Pour les interroger, je n'avais qu'à les contempler et leur réponse, c'était leur beauté. Cette confession donc de saint Augustin, fondant le sentiment du divin dans l'appréhension du beau, est la plus haute définition que je connaisse de l'art, en Occident du moins. Elle ouvre une longue histoire intellectuelle, spirituelle et morale. Et à l'autre bout du chemin, Dostoïevski la relance lorsqu'il écrit que c'est la beauté qui sauvera le monde. Sur Barane, la maison de Nazareth, 1635, le Christ contemplant la couronne d'épines sur votre gauche. Le thème ne semble guère avoir été traité ailleurs dans la peinture. Dans la maison de Nazareth, le Christ, le Sauveur, encore adolescent, se blesse au doigt et voit couler son sang. Il n'est pas représenté assemblant les planches de sa future croix sous le regard de son père charpentier, mais confectionnant une couronne d'épines sous le regard de sa mère. Au regard mélancolique, au bord des larmes, Marie est toute jeune, 27 ou 28 ans, puisqu'elle avait 12 ans, comme disent les Écritures, lorsqu'elle épousa Joseph. Cet épisode des enfances n'est pas mentionné dans les évangiles ni dans les apocryphes. C'est la piété populaire, surtout sous l'influence de la contre-réforme après le Concile de Trente, qui s'est plu à imaginer les tâches quotidiennes de la vie cachée de l'enfant sous le toit de la maison de Nazareth pour faire comprendre ce mystère. La mère, depuis la nativité, porte en elle la prescience de la passion. Elle interprète chaque geste de son enfant selon le destin qui lui a été assigné par son père, dont elle partage le secret. Le couple de colombes, au premier plan, est là pour rappeler le moment de la présentation de l'enfant au temple, quand Siméon avait prophétisé que le cœur de Marie serait transpercé par une épée. Le couple d'oiseaux que Marie et Joseph ont alors offert au sacrifice au temple, comme le prescrivait la loi hébraïque, préfigure le sacrifice du corps du nouveau-né, qui s'est incarné en Marie et qui deviendra lui-même une offrande à immoler. Voilà le détail du Christ adolescent en train de se piquer le doigt avec une... Voilà. Remarquons, très sur lequel nous reviendrons, que l'adolescent a une allure étrangement féminine. Comme la Belle au bois dormant, dans les contes, il semble découvrir la réalité du sang qui s'écoule de son corps en ce moment particulier, lorsque, s'éveillant de l'enfance, il entre dans l'âge adulte. Sa mère, en revanche, est occupée à un travail d'aiguille. On a même prétendu, mais c'est interprété trop, je crois, qu'elle est en train de coudre le futur sphère dans lequel on ensevelira son fils, à le majeur de la, oui, c'est ça, de la main droite, protégé par un dé. Symbole peut-être d'une virginité que rien ne peut atteindre, d'un corps intact, la clé d'une éternelle enfance, d'une adolescence à tout jamais célibataire. Le jeune garçon lui est réveillé de son sommeil d'enfant, de latence, dirait la psychanalyse, par la piqûre d'une épine, alors que sa mère renouvelle le pacte de sa chasteté. Par ailleurs, Marie pleure. Elle est prise dans un travail de deuil qui lui est proprement impossible à mener puisqu'elle voit devant elle, des nids visibles de ce seuil, rose et frais, le corps vivant de son enfant. Elle est une figure à la mélancolie redoublée par sa pose mais aussi par le fait que se livrant à des travaux d'aiguille, elle ressuscite l'image traditionnelle de la fileuse les almanachs populaires du XVe siècle avec sa quenouille inoccupée. Dans la figure de l'acédia, c'est-à-dire la mélancolie ambiguë, se mêle à la tendresse maternelle le souvenir de la mauvaise fée des contes dont le fuseau blesse l'enfant, et plus lointaine l'image de la parque filant le fil de la vie. Pourtant, c'est une autre blessure qui la traverse à cet instant. Même ce qui n'était jusque-là que prescience semble ici, en cet instant, devenir certitude. L'accident, le sang qui coule, vient confirmer la prédiction. C'est dans le corps, dans la chair, que s'inscrit désormais dans un instant précis du temps et de manière irréfutable, comme une lettre écarlate, le destin du petit Jésus, si j'ose dire. C'est le sens de ce croisement, ce chiasme entre le projet d'un père écrit dans l'éternité et l'instant où il se manifeste comme signe aux yeux de sa mère, que nous interrogeons. Dans les nombreuses représentations de la nativité à partir du XIIe siècle, bien avant Solbaran, la Vierge apparaît en général empreinte de tendresse, tenant serré contre elle l'enfant. Mais aussi parfois, on la voit garder et regarder son fils à distance, songeuse, inquiète, soucieuse, abîmée dans ses pensées. Et la pensée qui la traverse n'est encore qu'une interrogation mêlée de douleur. Celui qu'elle veille et qu'elle regarde sans fin est à la fois la chair de sa chair et c'est en même temps un petit être inconnu, déposé en elle par une puissance supérieure, et dont elle sait dès qu'il est venu au jour qu'il deviendra l'homme de toutes les douleurs. Ce corps né de son corps est aussi celui destiné à mourir pour le salut des hommes. Pour le salut des hommes. Au portail nord de la basilique Saint-Marc de Venise, comme ici, vous la voyez, au-dessus du porche d'entrée, se dispose une nativité où la Vierge est figée dans la posture mélancolique, à une distance notable, posture mélancolique, la main gauche au visage, à une distance notable du nouveau-né. La morphologie est d'influence byzantine encore l'étoile, la comète en position centrale avec ses raies verticaux. Mais on s'attardera sur la forme singulière qui délimite le lieu de cette nativité, c'est la mandorle dans laquelle s'inscrivent traditionnellement les personnages sacrés et qu'on trouve très souvent sommés les portes des lieux saints. Cette amande, comme l'écorce du fruit par rapport à la noix, symbolise la nature divine du Christ cachée par son enveloppe humaine. Mais elle signifie aussi dans l'ésotérisme médiéval la virginité de la mère du Christ. Ici, l'aspect est singulièrement souligné par un double enveloppement, une double bordure, et par la forme au demeurant d'inspiration islamisante d'un rideau que l'on a ouvert avec la partie supérieure, pincée et remontée en pointe. Cette mandorle ou cette amande dans laquelle s'inscrit la figure d'une naissance, c'est une matrice, le seuil entrebâillé de la génération, la porte d'entrée du corps de l'enfant, qui se trouve être aussi la porte d'entrée, le seuil de l'Église, l'Ecclésia qu'incarne la Vierge, la fille du Seigneur et la mère du Sauveur. Ce double enveloppement, en demi-cercle accolé, c'est dans la symbolique médiévale l'accès à l'utérus, enfermant l'embryon. L'image de la mère à l'enfant telle qu'on la voit dans sa mandorle au-dessus des portails est aussi ancienne que le monde. On connaît une représentation ancienne d'une mère à l'enfant, d'une femme à l'enfant, du IIe siècle ou du début du IIIe, qui est une figure idéale de la maternité qui se dresse dans un lieu de sépulture, les catacombes de Priscilla, dans la chambre dite de la voilée. L'image de la ville, salut que l'enfant apporte avec lui, est liée dès l'origine à l'imaginaire des tombeaux, tout comme les douleurs de l'enfantement sont traditionnellement apparentées aux affres de la mort. Mort et vie, appréhension déchirante de la mort au moment même où de votre propre corps surgit la vie. La mélancolie des jeunes parturiantes que la peinture nous propose ne figure-t-elle pas aussi singulièrement ce que la psychiatrie appellerait aujourd'hui la dépression postpartum ? Trouble hormonal, désordre physiologique des viscères qui rompt le bon équilibre des quatre humeurs. Apporter la vie, c'est connaître la mort. Le monde antique, rappelons-le, a tourné autour du principe juridique, par ailleurs de la toute-puissance du père. Les enfants qui n'étaient pas désirés pouvaient être exposés, c'est-à-dire mis à mort. Le pater familias avait droit de disposer de la vie de ses enfants. C'est à partir d'Adrien, à la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne, que la législation qui régit le droit entre le père et les enfants s'est adoucie. Comme ici, dans cette figure, vous trouvez l'image de la grande mère gréco-romaine qui se fond alors et s'efface dans une représentation qui témoigne d'une sensibilité tout autre, qui englobe à la fois la tendresse d'une relation unique, personnelle, de la mère et du fils, et le sentiment d'un salut de l'humanité lié à la maternité. L'idée s'impose, troublante, d'un fils unique, d'un fils en miroir, voulu par le Père à son image, incarnatus et homo factus. Le Verbe est d'une substance identique au Père et non d'une substance semblable au Père. Longtemps, la fameuse différence, la iota, qui sépare l'homo ousios de l'homo iousios, animera les conciles de l'Église des premiers siècles. Pour les arianistes, plus tard condamnés pour hérésie, le Christ, en effet, est différent du Père, ce dernier seul étant l'unique Dieu, le Très-Haut, puisqu'il est inengendré. Pour les catholiques, en revanche, prévaut l'idée d'un fils en miroir, voulu par le Père à son image, en unité et en égalité avec lui, co-éternel, réellement engendré par lui, genitus non factus, consubstantialem patri, comme dira la prière, et par conséquent entièrement Dieu, à l'égal du Père. Vous reconnaissez ici le célèbre tableau d'Enguerrand-Carton, le couronnement de la Vierge, qui est à la chartreuse de Villeneuve, les Avignons, où le Père et le Fils sont figurés identiques, debout de part et d'autre de la mer, comme en miroir. Étonnant bouleversement anthropologique que ce reflet spéculaire établi entre un Dieu et un humain, qui fondera, comme on le dit un peu rapidement, la tradition iconographique de l'Occident. Or, c'est à travers le corps d'une femme, le corps de la mère, que ce Dieu pleinement Dieu s'inscrit dans l'histoire humaine. Dans une histoire, il est en même temps, dès le premier jour, celui qui est promis à une mort ignominieuse. Le giron de la mère est déjà, et depuis toujours, son tombeau. Et le tombeau aussi, déjà et depuis toujours, est le giron d'où naît le salut de l'humanité. Un monde sans révélation, un monde privé de l'orientation signifiante vers l'autre et le monde de la solitude radicale de l'être et de la violence inexorable qui naît de cette solitude. Le monde du paganisme antique ne peut connaître que la déréliction et c'est le sens de ces figures des morts, ni désespérées ni même tristes, mais comme absentes, abîmées dans une solitude irrémédiable. On voit sculpté sur les stèles funéraires antiques aux céramiques. C'est là que le reflet est reconnu de soi-même et comme dans le mythe de Narcisse, le signe avéré de la mort, là où se voir dans un miroir et même se voir, comme dira Paul Valéry, c'est rencontrer sa propre finitude, donc reconnaître sa mort. Le monde du paganisme est le monde où les dieux païens ne permettent pas d'aller vers l'altérité et restent eux-mêmes prisonniers de cette solitude. La révélation du monothéisme dans la religion judaïque, puis dans la religion chrétienne, est une révolution. C'est la possibilité de sortir de soi-même, de se faire appeler, de se faire nommer par un autre qui vous donne âme, qui vous assure de retrouver l'humain en tant qu'humain dans l'autre, pour paraphraser Lévinas. À l'inverse, cependant, de la culture juive, la culture chrétienne sera la seule culture monothéiste qui multipliera le culte des images, mais surtout qui, à l'intérieur de sa propre tradition, la tradition issue d'Athènes et de Jérusalem, osera éclairer l'énigme mortifère du Narcisse antique et lever son tabou. S'instaure ici, comme dans la métaphore du tableau d'Enguerrand Carton, ici, le miroir absolu de la nouvelle foi, capable désormais de fonder le lien d'image, non dans la mort, mais dans l'idée de la résurrection de la chair, à partir duquel tout le mécanisme de l'institution des images en Occident, tout le système normatif permettant à une société de se reconnaître et de se fonder dans l'arme symbolique du spéculaire, sera fabriqué. Une autre image de la piété populaire de la fin du Moyen-Âge, dans cette optique d'un temps hors du temps, c'est l'homme des douleurs, le Schmerzensmann, entouré des instruments de son supplice. Il est destiné à, de dureur, bien sûr, il est destiné à souffrir, bien au-delà de sa passion terrestre, à souffrir aussi longtemps que l'humanité sera pécheresse. C'était ce qu'on appelait à la fin du Moyen-Âge la passion perpétuelle. Et elle se représentait par cette figure d'un Christ d'outre-tombe, venu d'outre-tombe, si je puis dire, portant les marques de sa crucifixion, passé, mais cependant, et toujours, plongé dans une mélancolie sans fin, la main droite à la messelle. À cette image singulière d'un Christ souffrant après son sacrifice, fait pendant cependant l'image de la Vierge des douleurs, destinée elle aussi à souffrir aussi longtemps qu'il souffrira. L'image du Stabat Mater, cette quête et cette veille de la mère du corps de son enfant mort, me paraît avoir façonné comme nul autre notre sensibilité actuelle. La suivante. Un triptyque, ici reliquaire, de la fin du XVe, montre une mère à l'enfant qui, vue de l'extérieur, n'est guère différente de l'image des grandes mères de la tradition antique. Mais une fois ouvert, l'histoire devient tout autre. Le reliquaire cache en son sein, qui est en effet le sein de la mère, le même enfant devient adulte, mis à mort et crucifié, tenu et soutenu par le père, non pas gisant comme de la Pietà sur le giron maternel, mais dressé et présenté à l'adoration des fidèles. Cette image presque choquante à nos sensibilités, c'est celle de ce qu'on appellera le trône de grâce. Comme ici dans ce dessin de Jacopo Bellini. Le Père Tout-Puissant, barbu comme un islamiste, le Fils et le Saint-Esprit. Pareil raccourci qui recourbe violemment le destin d'un jeune enfant vers le sacrifice d'un Dieu, est sans doute l'une des trouvailles les plus bouleversantes que la piété populaire, tard, ait inventée. Venons-en donc aux représentations de la Pietà. Là encore, nulle mention dans les évangiles, ni dans les apocryphes. La Pietà, le corps du Christ mort, déposé et déploré dans le giron de sa mère, apparaît seulement à la fin du XIIIe siècle et se développe au XIVe, en venant s'interposer entre les autres épisodes, eux attestés par les Écritures, la déposition de croix, quand le cadavre est détaché de sa croix, et la mise au tombeau. Quelques mots d'abord sur le mot Pietà, avant de signifier un sentiment personnel de compassion auquel on se laisse aller, on dit ainsi s'abandonner à la pitié. Il a longtemps signifié un impératif moral, un devoir social vers lequel il faut s'élever. La piété, c'est d'abord le sentiment du devoir envers les dieux, devoir sacré et profane qui s'étend jusqu'aux parents, la piété filiale entre le père et la mère. L'origine du mot serait à rechercher dans un verbe « pio » qui a souvent le sens de purifier et par suite d'effacer par son sacrifice, expier. La piété n'est pas un abandon spontané, c'est un mouvement volontaire, c'est un acte et non pas une souffrance passive. C'est la compassion, c'est-à-dire l'accompagnement actif d'une souffrance. Vous avez là, cette piété d'Enguerrand-Carton qui donnera l'image saisissante de cette nouvelle sensibilité née de la dévotion moderne qui, déplaçant le trône du Père et le rendant en quelque sorte invisible, installe en son lieu la mère au centre de la composition pour veiller le corps tétanisé de son fils. C'est un type particulier de la Pietà qui est ici représenté. Le pathos est abandonné et la Vierge ne touche plus le corps de son fils. Les mains jointes, elle prie. Elle semble célébrer la première messe sur un autel dont les reliques sont constituées par le propre corps du Christ. C'est moins la Vierge de douleur qu'elle incarne que celle qui représente à nos yeux l'acceptation du sacrifice du Fils pour le salut de l'humanité. La passion parallèle de la Vierge, parallèle à la passion qu'a vécu le Fils, la compassion plutôt qu'à souffrance, exalte ici la force inébranlable de l'Ecclésia dans la résurrection. Si le thème de la Pietà a pu naître de celui de la Vierge à l'enfant, au terme d'une inversion de sens, d'une puissance, d'une violence inouïe, comme l'écrira Panofsky, plus violente encore l'inversion de sens qui, du thème d'une femme veillant son enfant mort, crée le thème de la victoire de la foi sur la souffrance. C'est la piété et la mystique populaire, en effet, en Europe du Nord, en Bohême puis en Allemagne, sous l'influence des Jeux de la Passion. C'est la mise en scène, c'est le théâtre qui projette, qui met en scène et donc qui visualise et qui donne corps aux différents instants qui auraient suivi la mort du Christ. C'est le théâtre qui permet le passage de l'imago pietatis, l'image de la dévotion figée, issue de la tradition byzantine, à une image de représentation offrant une expérience affective développée dans le temps. Le passage de l'image hiératique ou cultuelle à l'image active d'émotions humaines. Une sorte de Mitgefühl, Mitleid, dirait-on en allemand. Ce sont aussi les cercles mystiques rhénans, en particulier, il faut le noter, dans les couvents des femmes, que cet épisode, désormais rendu visible, sera considéré, médité et enrichi. La Vierge, désormais charnelle et proche, prend le pas sur un Dieu barbu, lointain et tout-puissant. Next one. Giovanni Bellini, à Venise, au XVe siècle, a sans doute représenté l'une des plus belles de ses Pietà, ou la plus émouvante, que Bellini réalise à l'âge de 72 ans. La mère est représentée comme une femme âgée, et non plus jeune, fait rarissime, car normalement elle est représentée jeune comme une jeune accouchée, ou comme je l'ai montré tout à l'heure dans le tableau de Sulbaran, une vieille femme à la peau ridée, résignée, docile, tandis qu'autour d'elle le monde reverdit et le printemps refleurit. Les cinq plaies du Christ sont nettement désignées, les plaies des bras et des jambes, la plaie du flanc droit percée au cœur par la lance. Canonique de l'iconographie, du Christ mort dans le giron de sa mère, on le verra plus tard, est le bras droit du Christ qui pend à la verticale. Or, ce bras droit qui pend dans le vide, inerte, du même Bellini, d'une Madone sur le trône, regardant son fils, celui qu'on retrouve dans cette nativité de ce fils enfant, le bambino, endormi sur son giron. La pose de l'enfant est la même que celle du cadavre dans la Pietà. L'enfant est représenté comme une préfiguration de la victime qu'il sera. Le sommeil dans lequel il est plongé est en fait un, Simulacrum mortis, qui explique la tristesse infinie de la mer, fondue à la mélancolie qu'on a vue si vive chez Zurbaran ou dans le portail de Venise. Pensive, douloureuse, la mer considère et dirait-on, elle découvre ce petit corps nu qu'elle imagine déjà agrandi, pesant. Le thème est très voisin de celui du songe de Marie, où la mer, en effet, en rêve, prévoit la crucifixion. Plus étonnant encore, sont en image inversée, abolissant là encore l'idée d'une histoire linéaire, ces pièces sculptées, comme celle-ci du maître de Coimbra au XVe siècle, où le corps du Christ mort est représenté en miniature comme le corps d'un enfant, et la mère figurée à grande échelle, et le corps du Christ réduit, rapetissé, revenu à la taille qu'il avait quand il est sorti du giron sur lequel il repose désormais. Les instants de la mort et ceux de la naissance sont confondus. L'adulte, une fois mort, est bercé par la mère comme s'il était redevenu le petit enfant qu'il fut dans ses bras. Cette involution, cette invagination suggérée sont de ces images inconscientes auxquelles cet art, me semble-t-il, a su donner une résonance physique. Le même procédé dans cette Pietà allemande, où le fils retrouve la taille d'un enfant, mais où les côtes sont bien visibles, évoquent un squelette. À la Renaissance, ce problème de proportion avec les préoccupations d'une sculpture, d'une esthétique, d'une beauté idéale et intangible des corps, se renouvelle et renouvelée de l'identique, est indifférente à la spiritualité médiévale, va prendre une importance toute nouvelle. Vous reconnaissez là, bien sûr, les trois Pietà sculptés par Michel-Ange, dans trois œuvres majeures, la Pietà qui est au Vatican, à la Basilique Saint-Pierre, la Pietà Baldini, qui est à l'Opéra del Duomo à Florence, et finalement, la plus récente dans son œuvre, la Pietà Rondanini, qui est au Castello Sforzesco à Milan. Lorsque Michel-Ange, tout jeune encore, sculpte la Pietà du Vatican, il n'arrive pas à résoudre le problème formel qui consiste à apparier le corps frêle d'une jeune femme au corps pesant d'un adulte dans la force de son âge. S'il recourt à l'artifice d'un corps féminin agrandi par les vêtements, la tête de la Vierge reste disproportionnée par rapport à la masse du gisant. Pour répondre à ces critiques, il aurait dit que c'est la virginité de Marie qui lui aurait assuré cette jeunesse intempestive, alors que son fils ne pouvait que grandir. Je l'ai dit, dans les dernières années de sa vie, Michel-Ange restera occupé par le thème de la Pietà, la plus célèbre étant, vous la connaissez, cette étonnante Pietà Rondanini, commencée en 1552, et sur laquelle il travaillait encore au moment de sa mort, en 1564. Dans le corps redressé et présenté aux fidèles par la mère, on retrouve l'image du trône des grâces de Jacopo Bellini. L'œuvre avait été précédée de dessins et d'études, aussi appelées Pietà, mais qui sont plus proches en fait d'une déposition de croix, où le corps du Christ semble être recueilli dans les bras de Nicomède et des saintes femmes, et des études de Christ en croix, dont une crucifixion en bois. La Pietà Rondanini, dit-on, est restée inachevée. Je ne le crois pas. Je pense que l'intention de Michel-Ange était précisément de fondre le corps du Christ au corps de la mère, d'en faire un seul et même corps, un même fût, comme si à la volonté patriarcale et cruelle d'exposer le martyre et le sacrifice de son fils sur la croix, même si ce n'était plus dans le sens d'une exposition du Fils par le Père, mais dans le nouveau sens d'une ostension, se substitue ici la présence douce d'une mère et de sa compassion charnelle. Michel-Ange demeurait ainsi attaché à la représentation d'un attachement viscéral, indissoluble, symbiotique, fusionnel, pour le fruit de ses entrailles, d'une nature autre que celle du Père, tout-puissant pour sa victime. Le Christ n'est pas ce corps pantelant et sinueux que l'art baroque va se plaire à représenter, comme par exemple dans ce corps du Christ dans le trône de grâce du Gréco. Il devient ce corps redressé dans lequel semble circuler le sens de la mère, symbiose, unité physique, du corps de la mère et de l'enfant jusqu'à l'interchangeabilité de leurs vertus et de leurs propriétés, sinon de leur genre. Les commentateurs dès l'origine ont en effet insisté sur la nature de la souffrance de la Vierge, qui est aussi, disait-il, une angoisse de nature physique. La femme a été créée de la côte d'un homme, elle est comme, dit la Genèse, la chair de ma chair, l'os de mes os. C'est de cette origine physique que naît sa relation particulière à son fils, à son petit Dieu, lui aussi incarné, fait d'os et de chair. La suivante. Voilà, merci. Dans la Bible moralisée de Saint Louis, Bible moralisée du XIIIe siècle, sont mis en parallèle l'image, d'un Adam endormi du flanc duquel naît sa compagne Ève. Dans le médaillon inférieur, le Christ, in somno crucis, endormi sur la croix, et son flanc donne naissance à la création de l'Église, qui est aussi le symbole de la Vierge Reine du Ciel, la nouvelle Ève. Confusion de l'origine et de la fin, confusion du divin et de l'humain, confusion enfin du masculin et du féminin. C'est l'homme ici qui donne naissance à la femme, l'homme Jésus, qui devient femme et génitrice. Confusion, ou plutôt interminable circularité des deux principes féminins et masculins et des deux natures, humaine et divine, des deux hypostases, l'origine et la fin, la mort et la résurrection. Suivante. Dans cette déploration peinte par Cimabue Corneliano, on trouve à la perfection cette circularité, ce va-et-vient. La mère est évanouie à côté du cadavre de son fils et le tombeau de ce dernier est ouvert à l'autre bord de la composition. Le lien conceptuel entre le sein maternel et le tombeau est repris par le motif singulier, presque choquant, de la main gauche du Christ glissée dans le giron de la mère et de la main de la mère posée sur son bras. Ce lien, cette relation physique qui unisse le corps de la mère et du fils, représenté de manière non dissimulée, rappelle les paroles du Cantique des Cantiques que l'époux adresse à sa bien-aimée. « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. » Parole d'amour auquel l'épouse répond par l'ouverture, mon bien-aimé a passé la main et mon cœur en a frémi. Je me référerai cependant à deux autres images qui témoignent de l'attachement physique de la mère au fils et du fils à sa mère. Vous l'avez reconnu, c'est la Madonna del Parto de Paola Francesca. Image inoubliable que Pierrot a peinte dans le village natal de sa mère à Monterchi. Cette femme, à l'instant de sa parturition, s'inscrit à nouveau dans une mandorle en forme d'un rideau dont l'ouverture rappelle assez justement la forme ouverte de l'amande de la lunette de la basilique Saint-Marc à Venise que je vous ai montré précédemment. Le motif de l'ouverture est redoublé puisque très délicatement, du bout d'un doigt, la Vierge ouvre sa robe et découvre ses vêtements intimes comme une grenade qui s'entrouvre. La Vierge, dans l'imaginaire chrétien, est appelée à la fois maison de Dieu et porte du ciel. Cette fresque, rappelons-le, se trouvait dans la chapelle qui se trouve à l'entrée, encore aujourd'hui, du cimetière de Montelchi, soulignant, là encore, le lien étroit de la naissance et de la mort. On a oublié que dans cette symbolique complexe mais cohérente que déploie l'iconographie de la Nativité, sont présents les symboles de la crucifixion, puisque parmi les offrandes apportées à l'enfant par les mages, s'il y a l'or pour honorer le roi, l'encens pour vénérer le dieu, il y a aussi la myrrhe qu'on offrait pour embaumer les morts. Ce n'est pas en effet la pauvreté de l'enfant, mais sa royauté que la Nativité célèbre. L'or et l'encens, mais aussi, oui, mais la myrrhe, quel peut être cependant le sens de ce parfum funèbre, sinon pour annoncer déjà la mort. Marie est dite la première porte, la porte du ciel, celle qui a permis à un Dieu d'accéder à une vie humaine, mais le Christ lui-même est, si j'ose dire, une avant-porte qui précède la porte, une porte redoublée. L'évangile de Saint Jean lui fait dire « C'est moi la porte ». Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc aussi, avant même que se présente à lui l'ouverture au jour que sera le sexe de sa mère, l'ouverture, la fissure, la fente par laquelle est sortie comme Ève à partir d'Adam, la nouvelle Ève, sa propre mère, il est la porte du salut et il apporte finalement le salut pour tous les hommes. Il n'y a donc pas de surprise à voir figurer dans la blessure au flanc droit, mise en évidence sur toutes les... Voilà, merci. Sur toutes les piétards, l'exact équivalent d'un sexe féminin. Là, c'est une enluminure du 15e siècle. Le Christ de la Pietà est d'ailleurs toujours figuré la tête à gauche du tableau, de sorte à découvrir au spectateur le plus visiblement possible, suivante, oui, la blessure faite à son flanc droit. Parfois, l'analogie avec le sexe féminin est soulignée au point que c'est la fente seule, la blessure, qui est figurée. Il importe de comprendre que l'amande rouge est représentée entourée de ses instruments de la passion, comme c'est le cas dans cette enluminure du 15e siècle. La croix, la couronne d'épines, le fouet, la lance, ainsi de suite. La blessure, comme le sexe d'où le salut est venu, ici représenté comme une métonymie du corps tout entier. C'est la partie pour le tout, l'organe de la génération pour l'être en son entier. S'il fallait insister encore sur le côté féminin de la figure du Christ, si parfaitement présent dans le tableau de Zurbaran, de cette féminité qui choquera tellement Nietzsche, plus tard, je rappellerai encore un détail curieux, un peu qui se développe autour de la Pietà dans les cercles mystiques au long du XIVe siècle. La légende assure que la blessure au cœur du Christ, figurée sur ces sculptures, plus grande que nature, aurait été utilisée comme reconditio sanctissimi sacramenti, comme cachette secrète, resserre à hostie. Au fond de la plaie mortelle se cacherait le remède et l'immortalité. Faisons un grand saut dans le temps, si je ne vous ennuie pas trop par la longueur, mais ne cessons pas d'agiter ces représentations qui ont à voir avec l'origine et la fin, la naissance et la mort, la perte et le salut, la reproduction et la génération, l'être et l'identité. Le sexe d'abord et la mort qui va avec. Dans l'imagination populaire comme dans l'iconographie savante, depuis toujours, depuis les premières représentations paléolithiques et encore aujourd'hui, dans celles qu'on voit gravées, par exemple, et dessinées sur les murs par des enfants, l'amande, c'est d'abord et avant tout le sexe féminin. Aussi, en m'appuyant sur une homologie formelle, et que je serais tenté par un glissement assurément vertigineux de vous proposer, quitte à vous choquer, de recouvrir l'œuvre sainte du début du Duecento vénitien par l'image d'une œuvre fort profane de notre propre temps. En son temps, elle a fait scandale. Après elle, plus rien, comme on dit, ne sera comme avant. Elle marque la sensibilité de notre époque et lui donne son sens aussi fortement que la spiritualité et l'iconographie de la Pietà ont dessiné la sensibilité européenne entre la fin du XIIIe et le milieu du XVIIe. Il s'agit, vous l'avez reconnu, en 1917, de l'urinoir de Marcel Duchamp, simple objet sanitaire, ready-made, a-t-on dit, produit industriel, que l'artiste se serait contenté de basculer à 90 degrés pour le présenter tel quel dans une exposition sous le titre de Fountain. Destiné à être exposé en 1917 au Salon des Indépendants à New York, elle fait son entrée dans les musées dans les années 60 et elle est sacrée en 2004 comme l'œuvre, je cite, « la plus influente du XXe siècle » par 400 personnalités du monde de l'art. En janvier 2006, au nom de l'art, de la provocation dadaïste, l'œuvre exposée au Centre Pompidou, une des nombreuses répliques de l'original, a été endommagée par un artiste, vandalisme pour lequel le Centre Pompidou a demandé réparation de 460 000 euros. C'est moins, évidemment, que les aspersions de Vermeer ou de Gustav Klimt aujourd'hui. Le directeur du musée confiera alors à la presse que le crime commis contre ce chef-d'œuvre de faïence sanitaire, si mince par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, était aussi grave que celui commis à Rome sur le marbre, dit-il, de la Pietà de Michel-Ange en 1972 par un jeune vandale. Mais à rappeler la minutie, le maniaque, la patience infinie, l'habileté technique avec lesquelles Duchamp façonnait ses objets, et encore la préciosité intellectuelle avec laquelle il voulait faire de ses fabrications obsédées autant de cryptogrammes, je crois qu'il n'y a pas là, pas encore, il n'y a là rien d'un simple objet trouvé. La suite, oui, c'est ça. Si on considère comme ici la photo de l'œuvre qui a été faite par son ami Stieglitz, qui est la seule œuvre que Duchamp ait jamais authentifiée, et donc à ne prendre en compte que cette œuvre et non pas les multiples, approximatifs et grossiers qui lui ont succédé, on peut s'interroger sur un certain nombre de particularités qu'elle offre au regard et qui la distingue en tout d'un pseudo-objet trouvé. D'abord les retouches apportées à la photographie par de savants distincts repas. En haut, le plus évident d'abord, c'est ce petit bouton rond et luisant, en partie caché sous le repli de la porcelaine, une petite olive que nul n'a jamais vue briller dans un urinoir. À rappeler que les rebords de cette vasque sont en anglais appelés « lips », du même mot qui désigne les parties intimes du corps féminin, et que « fountain » en anglais signifie une source ou un jet d'eau, et que la langue populaire appelle « femme fontaine » une femme dont l'orgasme se manifeste par des émissions abondantes de liquide, a rappelé surtout comme une légende possible de l'œuvre certains de ces aphorismes dont Duchamp est effrayant, comme par exemple celui-ci « on n'a que pour femelle la pissotière et on en vit », a considéré plus généralement l'artiste, l'attitude de Duchamp vers la sexualité et la filiation, plus généralement la naissance, donc en esthète très fin de siècle qu'il était, il aborait l'idée comment ne pas voir dans cet objet sanitaire un objet visuel assez cynique, le substitut tridimensionnel d'un organisme bien particulier qui a affaire avec l'intimité la plus secrète d'un être humain. Son ouverture singulière, sa béance, dont le basculement a mis en évidence l'orifice rond qui apporte l'eau lustrale et le petit orifice troué qui par ailleurs évacue le liquide corporel, les lèvres gonflées, les deux conduits, et enfin ce petit clitoris luisant soigneusement, pas après coup, désigne à l'évidence un sexe féminin ready-made, mais alors ready-made rectifié. On a pu avancer que, la suivante, oui, l'œuvre de Duchamp, scandaleuse, à l'aube de l'art moderne, répondait à une œuvre à l'aube de la Révolution, qui est celle de son compatriote, Jean-Jacques Lequeux, architecte visionnaire redécouvert par les surréalistes. Dans son livre sur les figures lascives, il dresse une typologie du sexe féminin, et parmi les exemples, celui-ci, qui montre les doubles lèvres, dit-il, d'un cratère de femme qui est en âge pour concevoir. Lequeux observait le sexe féminin avec le même détachement qu'il observait le fonctionnement des chutes d'eau. Pareil cynisme, pareil regard froid porté sur les organes de la génération, pareille interprétation de l'acte amoureux comme une biomécanique de la génération, nous entraîne loin des fantasmagories de la religion chrétienne. Car une autre œuvre de Duchamp est à mettre directement en rapport avec sa fontaine. C'est en 1964 une photo de sa propre famille, au complet, où l'on voit ses différents membres à l'intérieur d'une ouverture trilobée, qui se trouve être celle qui se découpe dans le cratère de son appareil hygiénique. C'est la même découpe. Ils sont tous là, le père, la mère, les enfants, Marcel lui-même, une sainte famille en quelque sorte, non pas inscrite dans la découpe de la mandorle, mais échouée au fond de la vasque d'un urinoir public. On ne peut mieux rappeler sans doute le Inter Fesses et Turinam Nascimur des pères de l'Église. L'ancienne piété, la piété filiale, le devoir de piété se renverse en son contraire, la haine des liens et de la génération. La comparaison, enfin, n'a plus lieu d'être. Le monde moderne est un monde sans compassion, sinon dans ses processus dits compassionnels qu'on prétend accompagner pour les adoucir les derniers moments d'un moribond. L'œuvre, par ailleurs, illustre les réflexions que Freud, cinq ans avant Duchamp, en 1912, avait développées sur le plus général, disait-il, des rabaissements de la vie amoureuse. Elle marque l'agonie d'une morale judéo-chrétienne et des représentations qu'elle avait favorisées. Et elle inaugure un nouveau régime des images et une nouvelle gouvernance des corps. Lorsque Dieu est mort, comme on le sait, que l'on a coupé la tête au roi, lorsque personne n'incarne plus la loi, il n'y a plus ni or ni encens à apporter à l'enfant qui naît dans sa grange, reste la myrrhe funèbre qui accompagne les dépouilles dans la désespérance d'un tête-à-tête. Et la magie sensuelle, visuelle, organique, qui faisait de ces images de piété des intercesseurs entre l'homme et les puissances, avec les dieux et les pouvoirs, pour nous assurer un réconfort et nous tirer loin des affres de la mort, l'urinoir de Duchamp nous y replonge, cynique, sarcastique et immonde, hors du monde, dans un temps où Dieu, en effet, a disparu. Pour terminer ce trop long entretien, je dirais que l'iconographie de la Pietà a montré une extraordinaire persistance. Du chef-d'œuvre de Titien conservé à Venise et que vous connaissez bien, jusqu'à la sculpture funéraire et au monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Vous avez ici deux exemples parmi des milliers d'exemples qui se dressent dans les cimetière européen où le corps adulte d'un soldat christique est déposé sur le giron d'une mère qui est la Vierge. Le thème, sera repris de façon plus curieuse par des artistes aussi divers et dans des contextes politiques opposés, qui vont, par exemple, du sculpteur Arnaud Brecker, qui fut le sculpteur officiel de Hitler, comme vous le savez, le sculpteur officiel de la sculpture nationale socialiste. Ici, vous avez encore une Pietà d'Arnaud Brecker de 1934. mais aussi vous allez le trouver tout à fait à l'opposé du spectre politique, dans l'œuvre sculptée de Käthe Kollwitz, qui, elle, était la représentante de l'art, je dirais, lié au communisme, et même étant militante communiste. Et Peter, d'ailleurs, son fils engagé, sera tué, avait été tué en Belgique au début de la Grande Guerre. Et cette sculpture venue d'un dessin de Käthe Kollwitz sera ensuite transformée en sculpture. Et cette sculpture, vous pouvez la voir à la Neue Wache à Berlin, qui est le principal mémorial en République fédérale allemande pour les victimes de la guerre et de la tyrannie. Mais au-delà de ces positions d'Arnaud Brecker et de Käthe Kollwitz en Allemagne, en national-socialisme et communisme, vous avez aussi en Espagne, à peu près à la même époque, la figure d'une Pieta qui se trouve au-dessus de l'entrée de la Valle de los Caídos, centre d'un complexe monumental qui a été érigé par Franco entre 40 et 58 pour perpétuer la mémoire des morts de la guerre civile espagnole. L'hommage est fait aux morts de la guerre civile et officiellement il a été édifié pour réconcilier les républicains et les franquistes, en permettant à toutes les régions d'Espagne d'envoyer des dépouilles qui allaient se trouver privées de sépulture 10 ans après leur inhumation. Je pourrais continuer comme ça, évidemment, et surtout parmi les monuments aux morts, en trouver toute une série très saisissante, directement inspirée des Pieta du XIVe et du XVe. Je voudrais vous montrer une œuvre moins connue et beaucoup plus contemporaine, puisqu'elle est de 2011, faite une dizaine d'années, donc, par l'artiste Yann Fabre, qui se trouve à Venise, dans l'école Santa Maria della Misericordia. Une Pieta, mais une Pieta singulière, dont la tête est devenue une tête de mort et dont la main droite repose sur une cervelle. Hein ? Oui. Et pour finir, parce que je vous remercie de votre patience, eh bien, j'aimerais vous montrer de façon peut-être inattendue cette œuvre de bien connue, trop connue de Picasso, Guernica, qui est au musée Reina Sofía à Madrid, peinte en 1937 et qui demeure encore aujourd'hui son œuvre la plus célèbre. On a même pu dire que c'était l'œuvre capitale du siècle. Le sens paraît clair, c'est le souvenir du bombardement de la petite ville basque de Guernica par la Légion Condor, autrement dit le premier massacre à grande échelle de population civile et la protestation du grand artiste qui est alors encore exilé à Paris. Depuis un certain temps, je pense qu'il s'agit de tout à fait autre chose qui n'annule pas l'explication politique et historique, mais qui n'épuise pas le sens de l'œuvre. J'y vois, pour ma part, aussi évidente qu'inattendue, une nativité. Une nativité, une représentation de la Sainte Famille sous les bombes. Le lien est une pauvre masure, une sorte d'étable où se réfugiaient des humains et des animaux. Une mère tient son enfant sur la gauche, dans les bras, mais l'enfant en question dort, ou semble dormir. Peut-être plutôt est-il mort, la tête renversée, mais aussi le bras droit pendant dans le vide, comme on l'a vu précédemment chez Bellini et tant d'autres. Picasso a maintes fois démontré la grande connaissance qu'il avait de l'iconographie chrétienne, non seulement dans les multiples crucifixions qu'il a peintes, ici et là, et aussi il y a deux animaux, non pas le bœuf et l'âne, pacifiques, domestiques, mais cette fois des congénères un peu plus violents et plus sauvages. D'une part un cheval, qui toujours, dans les scènes chez Picasso, désigne une victime, le flanc ici transpercé par un épieu, ou par une lance. C'est d'autre part un taureau, terrifiant, le minotaure monstrueux qui dévore les jeunes filles vierges. Mais aussi à la verticale de l'enfant mort, c'est l'animal de sacrifice que les soldats égorgeaient rituellement dans le culte de cette autre religion qui se développe en même temps que le christianisme et qui est le mithriacisme. La singularité était d'être elle aussi une religion du salut, le mithriacisme. Malraux et Bataille, par exemple, parleront justement de l'influence du culte de Mithra dans l'œuvre de Picasso, après 1933. Un troisième animal flanquant la tête du taureau est lui aussi chargé d'un symbolisme précis, un oiseau, comme celui qui, entre le père et le fils, incarne la troisième hypostase de la Trinité, le Saint-Esprit. Je finis. Il y a encore là, dans ce tableau, un éclat de lumière qui rappelle l'éclat de la comète et deux figures féminines sur le côté droit qui contemplent la scène et rappellent les deux sages-femmes qui, dans certaines représentations tardives de la nativité, accompagnent le nouveau-né. Il y a enfin deux formes qui flottent dans les airs, une créature blanche et souple qui se glisse par la fenêtre, une autre épouvantée qui lévite, comme les anges de la tradition qui assistent à la scène. Mixte ainsi d'iconographie mithriaque, où se retrouve le culte méditerranéen du taureau et d'iconographie chrétienne, serait cette œuvre célèbre, une nativité et une crucifixion, mêlées, une naissance et un sacrifice, mais dont la victime est morte ici, chez Guernica, dans Picasso, comme dans la Pietà. Au premier plan, un cadavre, les bras étendus en croix, une tête de mort, un crucifié, comme dans ses nativités, où le Christ apparaît à la fois comme un enfant et comme une victime, le Golgotha au pied du berceau, conformément à l'iconographie la plus traditionnelle. Il n'y a plus ici ni espoir, ni promesse de salut. C'est la mort qui a triomphé. Je vous remercie.
Inutile de vous dire que c'est nous qui vous remercions et que nous sommes sous le choc, si je puis dire. Il y a quand même deux questions pour ouvrir le feu, si je puis dire. D'abord, Xavier Darcos.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'abord, je voudrais dire, comme chaque fois qu'on entend ou lit Jean-Claire, on est absolument ébloui. On est sous une sorte de charme absolu à la fois de la culture, de la profondeur, de l'analyse. Et surtout, on revoit complètement différemment ce que l'on croyait connaître, en particulier ce Guernica qu'on a vu mille fois. Alors j'ai levé la main un tout petit peu tôt, cher Jean-Claire, je m'en excuse, parce que vous êtes beaucoup revenu ensuite sur un sujet que je trouve assez intéressant et encore très énigmatique, qui est cette disproportion, cette diversité, cette mixité de l'âge et de la forme de la mère et de l'enfant. Ou parfois on a une mère qui semble avoir 15 ans, et qui tient le corps du Christ qui est mort à 33 ans, ou parfois l'inverse. Et je me posais la question de savoir comment c'était reçu, en fait, à partir des derniers documents qu'on voit, à partir du XVIIe siècle, cette question est à peu près résolue. Mais dans toute la période qui précède, il y a là une difficulté iconographique qui accentue le mystère, sans doute. Et donc, je me posais la question de savoir, est-ce qu'au fond, la Vierge est toujours représentée dans son symbole de toute jeune Vierge, quel que soit le moment où on la représente, ou est-ce qu'il faut interpréter différemment? Et du coup, mon étonnement a été redoublé par cette magnifique image que vous avez montrée tout à fait au début, l'enfant et la Vierge dans la maison de Nazareth, où on a l'impression qu'ils sont quasiment le même âge, d'ailleurs, la mère et l'enfant. Et il y a aussi une question que je me posais sur les deux sources de lumière qu'on a dans le tableau. D'une part, cette colonne de lumière céleste, on aperçoit même des angelots, je ne sais quoi, à l'intérieur. Et de l'autre côté, il y a un carré bleu, donc je n'arrive pas à comprendre le sens. Et donc, je me demandais si, là aussi, comment tout cela était reçu. Au fond, ma question, qui est une question vraiment dérisoire à côté de tout ce que vous avez dit de superbe et de profond, c'est quelle était la réception de ces images de la Pietà, je dirais au XIVe ou au XVe siècle, avec ces disparités si grandes de représentation par rapport à la chronologie, à la réalité, au réalisme, au fond, de la mère et l'enfant.
Oui, vous posez là d'emblée les questions les plus délicates, essentielles du thème de la Pietà et du salut. J'ai essayé d'insister au début, pas suffisamment, sur le fait que l'apparition du thème de la Pietà est une apparition tardive. C'est le XIVe siècle, donc le Moyen-Âge, si vous voulez, est déjà terminé. Et nous entrons dans une première renaissance, à beaucoup d'égards. Je ne crois pas que la sensibilité médiévale, proprement dite, aurait jamais osé représenter la mère comme une femme encore jeune, elle a 37 ans peut-être, tenant dans ses bras un fils qui en a 33, avec des disparités anatomiques tout à fait étonnantes. Ça apparaît tardivement, encore une fois, à la fin du Moyen-Âge, au début. Et ça apparaît dans un lieu particulier qui sont les monastères rhénans, hein, sur les bords du Rhin, d'Allemagne du Sud. Monastères de femmes. Comment est-ce que ce milieu très particulier, tardif par rapport, est naissant ? J'ai dit tout à propos du théâtre, oui, parce que les représentations de la crucifixion ont commencé à se multiplier au XIIIe, XIVe, donc certainement, à un moment, il y a les moments de la résurrection qu'on ne représentait jamais en peinture, brusquement, s'élargissent, se reproduisent. Il y a non seulement là la Pietà, mais il y a aussi l'adoration du Christ, ou la déposition de croix, qui n'apparaissent pratiquement jamais. Mais que le théâtre va multiplier, parce que ce sont des moments visuellement extrêmement forts. Donc d'abord le théâtre, ensuite la peinture, qui les récupère. En dehors de ça, bon, par la suite, à partir du XIVe, XVe, jusqu'au XVIe, le thème de la Pietà, tel qu'on l'a montré, avec cette mère âgée qui tient cette victime adulte, mais aussi parfois, plus bizarrement encore, cette mère âgée qui tient un tout petit enfant qui n'est autre que, à l'âge de quelques mois, le même personnage crucifié, mais réduit à... va connaître un grand succès, cette iconographie singulière et troublante, si on s'y attarde quelques instants. Par la suite, va disparaître, sans doute trop frappante, trop choquante, trop, peut-être aussi d'une... Je ne sais pas dire comment, d'un mysticisme ou d'une métaphysique trop grande, pour ne renaître que, enfin, bizarrement, en 1933-1934, pendant la guerre dans l'Allemagne nazie, avec d'un côté Kettekollwitz communiste et d'un autre côté Arnaud Breker, sculpteur officiel du Führer, et éventuellement dans l'art actuel, dans l'avant-garde actuelle. Mais là, si j'ose dire, ça ne m'étonne pas trop, puisque cette avant-garde recherche systématiquement la disharmonie des âges et des formes. Mais je ne pourrais guère en dire plus. Hélas, hélas, hélas.
Merci. Rayem Corsia, demandez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Non, merci pour cette présentation qui va de cette époque jusqu'à l'époque la plus contemporaine. Et moi, j'avais deux petites questions à vous poser. La première, à part une qui est en bleu, aucune des vierges n'est en bleu, à part une. La deuxième, puisque vous avez fait des ponts assez étonnants, mais tellement clairs quand vous nous les présentez, entre la Vierge et des œuvres contemporaines, je me souviens que lors d'un rapport de Régis Debray datant de tête de 2002, avril 2002, sur l'enseignement du fait religieux à l'école. Il a rapporté une anecdote incroyable d'un groupe scolaire en visite au Louvre qui s'arrête devant une Vierge à l'enfant habillée de bleu et qui dit, pardon, texto, deux points, ouvrez les guillemets, « Qui c'est la meuf en bleu avec l'enfant dans ses bras ?» Et je me dis, finalement, est-ce qu'on n'a pas enfermé ce personnage dans une iconographie exclusivement religieuse en la coupant de tout ce qu'elle peut donner d'universel? Et enfin, dernière petite remarque, c'est quand même étrange, quand on les voit les unes après les autres, les diapositives que vous présentez, c'est incroyable de voir Jésus soit évanoui, soit mort apparemment, alors qu'il est censé, lui, racheter les péchés du monde, ou éviter les souffrances du monde, et donc il devrait être plus vivant que jamais.
Oui, mais justement, là, le scandale, si j'ose dire, de la Pietà, c'est que c'est inversé, mais en même temps, ça pose profondément la question de du salut. La Vierge apporte le salut, parce qu'évidemment, le Père, c'est le Père qui l'a, ensemencé. Et elle, c'est elle qui est chargée d'apporter charnellement le salut aux hommes. Donc il est bien question de salut. Et donc, c'est très difficile, à analyser. Enfin, moi, j'ai essayé de faire comprendre cette circularité de la mort et de la vie, cette réponse à l'effacement de la mort par la puissance de la vie qui change les âges, qui change qui fait que cette jeune fille, cette jeune femme, qui a quoi, 16 ans, 17 ans, quand elle devient finalement celle qui va servir de reposoir au corps tétanisé de son fils mort sur la croix. C'est évidemment une imagerie totalement à l'encontre, à l'opposé de toute l'imagerie traditionnelle de la crucifixion et éventuellement de déposition. Mais même les images de déposition et sont rares et n'apparaissent que progressivement vers la fin du Moyen-Âge.
Pardon, si j'ose aller plus loin, enfin si le président m'y autorise.
Oui, le président vous y autorise, monsieur le rabbin.
Excipant de votre connaissance encyclopédique de l'œuvre de Picasso, puisque vous en avez été le directeur du musée, oui. Vous savez très bien qu'on retrouve à peu de choses près les mêmes œuvres, les mêmes mères portant l'enfant dans les arts premiers qui ont beaucoup inspiré Picasso, mais ce sont toujours des mères qui nourrissent l'enfant, donc elles amènent bien la vie. Donc je comprends bien le principe que c'est la
mère.
Pas dans
Guernica.
Oui, alors voilà, mais vous traduisez que c'est un enfant mort parce qu'il a le bras droit qui pend.
Oui.
Mais je suis sûr qu'on trouverait un Rachi ou un Tosafiste quelconque que Rémi Braque connaîtrait évidemment, qui pourrait interpréter différemment.
Oui.
Mais en dehors de ça. Et le rapport aux arts premiers, ce sont toujours des mères nourricières. Oui. Jamais des mères qui portent des enfants morts. Jamais.
Oui, c'est juste.
Merci. Jean-Robert.
Moi, j'ai simplement voulu rappeler tout de même par rapport aux interprétations politiques de Picasso, à combien il a, dans sa vie, représenté de sujets religieux, en particulier chrétiens. Non seulement des nativités, mais aussi des crucifixions. Il en a peint une bonne dizaine et des dessins, il y en a une bonne quarantaine de crucifixions. Donc il a vécu quand même dans un milieu qui était un milieu profondément chrétien en Espagne. Il a perpétuellement toute son œuvre essayé de replonger cette iconographie chrétienne si singulière et si violente dans sa propre œuvre et dans sa propre vision du monde, au moment où les Allemands lâchaient les bombes sur Guernica en particulier. Je ne peux pas tellement dire plus.
Merci. Donc Jean-Robert Pitt, disais-je.
Merci. Merci. Profondeur de ces propos.
Est-ce que vous avez une idée de ce que deviendra la figure de la Pietà dans le futur, alors qu'on assiste à un changement anthropologique majeur, avec la possibilité de fabriquer des enfants sans mère, issus de mères porteuses, sans lien génétique avec eux? Est-ce qu'il y a déjà des œuvres d'art qui témoignent de cette évolution plus qu'importante?
Là, ce serait l'occasion d'une autre conférence aussi longue. Là, j'ai voulu simplement amorcer ce problème, effectivement, fort intéressant, en montrant, juste avant Guernica, l'œuvre de Fabre, Yann Fabre, qui est de 2010, donc qui est d'hier. Sauf que là, la mère est figurée sous la tête, sous la forme d'une tête de mort, sûrement. Et je suis certain, évidemment, que vraisemblablement, je ne vais pas citer de nom, mais enfin, je pense à certains sculpteurs contemporains qui vont se précipiter sur cette iconographie en découvrant brusquement la richesse étonnante de cette imagerie, et aussi le fait qu'elle est ambiguë, qu'elle est... Voilà, mais j'attends... Enfin, je n'ai même pas de curiosité, parce que c'est plutôt un refus que j'opposerai à ce surgissement futur. Mais quand on regarde celle que j'ai montrée, la de Fabre, il y en a un autre que j'aurais pu choisir, montrer à la Biennale de Venise ou ailleurs. Le choix est vaste. Mais je pourrais éventuellement faire une autre conférence ici où je montrerai le thème de la Pietà.
Chiche.
Chiche, oui. Dans l'art actuel, comment dire. Mais vous savez déjà, j'ai cité ça très brièvement, mais le fait qu'en l'espace de 15 mois, deux mois, on est aspergé de je ne sais quel liquide nauséabond, le merveilleux vermeer du Stedelijk Museum Amsterdam, ou de goudron, l'un des plus beaux tableaux de Klimt, grande fresque de Vie et Mort, qui est peut-être le chef-d'œuvre de Klimt, et tant d'autres choses que je pourrais encore citer. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Van Gogh, évidemment, bien sûr. Et puis, mais ça, c'est les aspects les plus spectaculaires, les plus journalistiques ou médiatiques, si je puis dire, qui se succèdent jour après jour, mais qui dénotent quand même un changement extraordinaire de la part de la jeune génération envers des œuvres que nous avons toujours vénéré, respecté, admiré, comme étant des femmes. Enfin, aussi le fait qu'on déboulonne les statues, ou bien que la culture woke, on annule tout, est en train de prendre le pas. Tout ça, effectivement, je crois, va nourrir profondément la possibilité d'une iconographie à la Yann Fabre, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je ne sais pas, je le crains.
Merci. Jean-Claude Trichet.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour cet exposé absolument fascinant. Et ma question va vous surprendre peut-être parce qu'elle ne tourne pas autour de votre méditation sur l'iconographie de la Pietà, les images merveilleuses que vous avez montrées, et surtout votre interprétation profondément originale, mais sur un détail de votre exposé. Vous êtes revenu à une ou deux ou trois reprises sur Mitra.
Oui.
Et naïvement, je crois avoir le souvenir que certains pensent que Constantin a hésité entre le Christ et Mitra, et qui finalement il a choisi le Christ pour des raisons assez profondes et qui se sont avérées extraordinairement productives, si je puis dire. Mais il aurait hésité avec Mitra. Et votre propre propos semble montrer qu'il y a une persistance, y compris chez Picasso,
oui,
du mythe Mitra. Est-ce que vous pourriez élaborer un peu? Parce que 2000 ans après, je croyais que Mitra s'était évanoui, personnellement.
Non, il y a eu chez Picasso une permanence de la représentation de Mitra. Là, vous me prenez un peu de court, mais ça serait très facile ce soir, chez moi, de retrouver au moins une vingtaine pardon, une vingtaine d'œuvres de Picasso qui se réfèrent directement au culte de Mitra, qu'il a perpétué à travers, à travers les années. C'est intéressant, oui. Et qui lui était moins, évidemment moins naturel que l'iconographie chrétienne dans laquelle il a été élevé dans sa famille. Mais Mitra l'a très longtemps, non pas obsédé, mais intéressé. Mais je pourrais en quelques... mais là, je suis un peu trop... Mais voilà, mais oui, bien sûr. C'est pas une chose unique, c'est quelque chose qui est revenu souvent dans son œuvre.
On a chez lui les deux acolytes de Mitra, enfin, Kautopates et l'autre. Je pose la question. Les deux petits sacrificateurs.
Oui, il faut vérifier. Il faut que je vérifie ça.
Tiens, merci. Bon, Serge Sûr, excusez-moi.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci beaucoup à Monsieur Clerc pour cette magnifique conférence. Moi, je voudrais peut-être poser une question qui déborde un petit peu l'art sacré. Je suis très loin d'être un spécialiste de l'art sacré, mais je suis très frappé quand je vois l'iconographie orthodoxe par la différence qui existe, parce que dans l'iconographie orthodoxe, on montre surtout le Christ en majesté, le Christ pantocrator, celui qui domine, celui qui est le maître de toutes choses. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre un culte qui est doloriste et qui serait celui de l'Église catholique, et puis un culte qui est triomphaliste et qui serait celui de l'orthodoxie?
Oui, alors, je ne suis pas du tout spécialiste, hélas. Je le regrette encore aujourd'hui, de l'art médiéval, mais ce que je peux savoir comme ça très, très grossièrement, c'est que les premiers siècles de l'art chrétien sont très proches d'un Christ triomphaliste et pantocrator. Si vous regardez des fresques 5e, 6e, 7e siècle, c'est un Christ pantocrator qui est peint sur les voûtes et derrière les autels. Ce n'est pas du tout le Christ doloriste qui va apparaître beaucoup plus tard. Donc il y a plusieurs époques comme ça dans la représentation du Christ, entre les débuts, 6e, 7e siècle, et puis l'épanouissement, et puis enfin évidemment la crucifixion qui prend le pas.
Mais c'est avant le schisme.
C'est avant le schisme, oui.
Marianne Bastit.
Oui, merci. Ma question rejoint celle de Monsieur Sûr. Cher maître, je voudrais abuser de votre savoir, mais vous demandez s'il y a dans la religion orthodoxe une iconographie représentant la Pietà. Et d'autre part, dans votre interprétation de la Pietà, finalement, le sentiment principal, c'est celui de la pitié, de la compassion, beaucoup plus que celui de la piété. La notion de la piété, elle est présente dans toutes les religions, mais la notion de la piété, elle existe dans toutes les religions, parce que c'est intrinsèque à la religion. En revanche, la pitié, la compassion, ça n'est pas universel. Et dans ce que vous avez examiné de ces représentations de la piété à travers l'Europe, c'est quand même la notion de compassion, de pitié qui domine, non ? Et ces images de Pietà sont limitées à une géographie relativement restreinte, n'est-il pas vrai ? C'est l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, mais pas très loin. Est-ce que ça dépasse l'Elbe ? Ça va certainement sur les deux rives du Rhin, mais beaucoup plus loin, je ne sais pas. Je m'arrête là.
Encore une fois, je ne suis pas un historien des religions, mais très difficilement à un historien d'art qui essaie d'échapper au petit canton du XXe siècle, l'orthodoxie, j'avoue que je ne sais pas. Je connais pas, je connais mal l'orthodoxie, l'iconographie orthodoxe. Tout ce que j'ai pu dire, c'est au début de mon exposé, je rappelais que la pietas, c'était encore une fois le devoir à accomplir envers les dieux. Hein. C'est aussi éventuellement, par contagion, si je puis dire, le devoir envers les humains. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son prochain. Donc on compatit, on sympathise. Mais c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que je me suis permis d'ajouter que Malraux, qui connaissait cela mieux que moi, en abordant le thème de la pietas, avoue, c'est noir sur blanc, ne rien y comprendre. Ne pas comprendre. Il ne comprend pas dans quel spectre spirituel la pietas s'inscrit, alors que c'est... Voilà. Comment pourrais-je faire plus, mieux que Malraux? Pietas, pietatis. Mais vous me donnez envie d'aller lire des textes saints orthodoxes. Peut-être aussi pour comprendre un peu mieux la Russie.
Bien, bon, il restait en principe deux demandes de parole, celle de Georges-Henri Soutou et la mienne. Je suis, alors, ce qui me semble tout à fait prêt à y renoncer. Il faut simplement demander à Gérard ou à Jean si ils sont en état de continuer, enfin, si vous n'êtes pas trop fatigué, parce que c'est quand même une épreuve presque marathonienne.
Alors non.
Bon.
Je crains.
Bon, écoutez, dans ce cas, alors nous renonçons, bien malgré nous, évidemment, à continuer à vous traire, si je puis dire. Parlons du culte de Mitra, il y a aussi des... Oui. Bref, je n'insiste pas. Donc, il me reste vraiment, au nom de tous, à vous remercier de la façon la plus vibrante. Vous avez...